RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre points du monde. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter les magazines culturels, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. On commence par le titre. Les industries nationales doivent optimiser les avantages du GSP des États-Unis. Renforcement des relations entre les deux nations. Le vice-président de DPR, Fadli Zon, rend visite au président du Parlement libanais, Nabi Berri. Le lancement officiel du concours de robotique de l'Indonésie 2018. Voici le journal complet. Le gouvernement de l'Indonésie encourage les industries nationales qui n'ont pas utilisé le schéma du système généralisé de préférence GSP fixé par les États-Unis pour l'optimiser. Le GSP est une politique visant à accorder un allègement des droits d'importation de l'importation de certaines marchandises en provenance des pays en développement. Le ministre de l'Industrie Erlangga Hartarto a déclaré à Jakarta que les produits qui n'utilisent pas le GSP doivent être socialisés et encouragés à les utiliser pleinement. Les produits nationaux potentiels qui ont l'avantage d'entrer sur les marchés américains comprenant les légumes, les matières premières agricoles, les bois, l'acier inoxydable, le coutou-cou, les chaussures, les textiles et les vêtements, ainsi que les biens de consommation. Au milieu d'une atmosphère politique chaleureuse et de la pression en faveur de la formation du gouvernement libanais, le vice-président du Parlement, Fadli Zon, s'est rendu au Liban et a tenu une série de réunions avec des responsables libanais. Dans un communiqué de presse reçu par RRI récemment, le président du Parlement libanais, Nabi Berri, a reçu une délégation de Fadli Zon et 5 membres de DPR accompagnés de l'ambassadeur de l'Indonésie au Liban, Ahmad Shozin Shumaidi. Au cours de la visite, le vice-président de DPR, Fadli Zon, a félicité les élections législatives du Liban le 6 mai 2018 qui se sont bien déroulées. En outre, il a également félicité pour l'élection de Nabi Berri en tant que président du Parlement pour la 6e fois. L'objectif de pourparlers entre les deux leaders de la législature est sur le plan de coopération entre les deux parlements. Le concours de robots d'Indonésie, ou KRI 2018, qui concurrence le robot de 91e équipe, a été officiellement ouvert jeudi 12 juillet au Sportarium de l'Université de Muhammadiyah, Yogyakarta. L'événement devrait être un moyen d'exploiter le travail de la technologie de la créativité robotique comme une arène pour montrer les progrès de la robotique en Indonésie. C'est une tentative de répondre aux défis qui accompagnent l'entrée de l'Indonésie dans la quatrième révolution industrielle. Avec le flux de la modernisation dans les différentes lignes de la vie, le développement de la technologie exige de l'existence de l'avancement de la créativité comme dans le domaine de la robotique pour l'avancement. Didik Purwadi, agissant en tant que représentant du gouverneur de Yogyakarta, a déclaré que ce processus créatif encourage les étudiants à participer au concours de robots d'Indonésie 2018. Il encourage également les experts en robotique à développer une technologie robotique qui est capable de simplifier et de faire avancer la vie humaine. En plus de la concurrence, 2018 devrait être un outil d'apprentissage pour tout le monde pour faire progresser l'éducation en Indonésie. C'est tout le journal d'aujourd'hui.
Quiz international de la Voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la Voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quel moyen écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email foiquiz2018@voinews.id. Je répète, foiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Bonsoir. Aujourd'hui, on va présenter une interview avec Monsieur l'ambassadeur de France pour l'Indonésie, Monsieur Jean-Charles Barton, qui est fait par le rapporteur de la Voix de l'Indonésie, Monsieur Suhartono, sur la fête nationale française, le 14 juillet.
Bonjour, les auditeurs et auditrices. Voici maintenant, je suis avec l'ambassadeur français en Indonésie, Monsieur Jean-Charles
Bertonnet.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
À propos... le jour national de France, le 14 juillet, ça fait de plus de 200. Alors, est-ce que cette année, il y a le thème spécial que des années précédentes, monsieur?
Je dirais que cette année, comme les années précédentes, nous serons très nombreux à célébrer la fête nationale le 14 juillet en France, mais aussi dans toutes les ambassades de France dans le monde, y compris à Jakarta, et que nous célébrons la naissance de la République en France, et surtout à cette occasion la défense des valeurs de la démocratie, les valeurs qui sont dans la devise de la République française, la République française, liberté, égalité, fraternité. Et je crois que ces valeurs sont très actuelles dans le monde d'aujourd'hui. Et ces valeurs sont partagées avec l'Indonésie d'ailleurs, puisque sa propre devise, unité dans la diversité, est aussi le reflet d'une aspiration à la démocratie, à la liberté, à la tolérance entre les différents groupes religieux et ethniques. Toutes ces valeurs de tolérance et de démocratie, nous les partageons entre Français et Indonésiens, et nous sommes très heureux de les célébrer cette année, comme les autres années. Vous savez que ces derniers temps, ces valeurs sont un peu menacées par des phénomènes tels que l'extrémisme ou le terrorisme. Là aussi, nous voulons vraiment affirmer face à ces phénomènes dangereux nos valeurs partagées avec l'Indonésie. Et nous serons très heureux de le faire, notamment à Jakarta, demain.
Ok. Est-ce que c'est peut-être c'est le plus spécial parce que c'est la France et c'est le moment de finale de la Coupe du Monde.
Évidemment, ça fait. Je vous mentirais si je vous disais qu'on n'a pas ça à l'esprit et qu'on l'aura très fort également demain lors de la réception pour notre fête nationale. Bien sûr, la Coupe du Monde généralement a lieu au mois de juillet et donc la finale a toujours lieu autour du 14 juillet. Et donc, quand la France est en finale, ça apporte une dimension particulière. Et donc cette année, le 14 juillet, par définition, est avant le 15 juillet. Donc ce sera la veille. Donc la réception ici et les célébrations en France auront lieu avant la finale. Ça veut dire qu'on ne connaîtra pas le résultat, mais on sera tous très impatients de voir le match le lendemain et surtout impatients de voir la France gagner cette Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire.
Est-ce que c'est l'ambassade de France fait organiser spécial pour les...
Alors il y a l'Institut français qui est juste à côté de l'ambassade sur Tamarine organise à diffuser tous les matchs de l'équipe de France et diffusera dimanche également la finale bien sûr oui et puis mais je sais qu'il y a les Français vont se retrouver dans différents bars de Jakarta pour regarder ensemble la finale.
Qui est le joueur de l'équipe qui vous préférez, monsieur?
En ce moment, c'est un peu facile à dire, mais il y a un joueur qui explose, qui crève l'écran, c'est Kylian Mbappé, qui a 19 ans. Ça veut dire qu'il n'était même pas né. Il n'était même pas né quand la France a gagné la précédente Coupe du Monde en 1998. Et il est très jeune, il est très explosif, il a des dribbles virevoltants qui désarçonne les défenseurs adverses. Voilà, donc il est... oui, c'est certainement... On verra ce qu'il fera dimanche, mais c'est certainement un des joueurs les plus marquants de cette Coupe du Monde.
Ok. Maintenant, c'est l'autre question. C'est comment sont les coopérations franco-indonésiennes après l'arrivée du président Hollande l'année dernière? Et comment la promesse d'investissement que la France a déjà... mentionner ça.
Alors il y a effectivement il y a 35 contrats ou MOU ou accords qui ont été signés lors de la visite de François Hollande. C'était il y a un an, donc on ne peut pas non plus attendre que tout soit mis en œuvre, mais beaucoup de choses a été fait. Et je citais tout à l'heure les projets de Engie, donc entreprise, un groupe français très investi dans les énergies renouvelables. Et je crois que le changement climatique, les énergies renouvelables sont vraiment un point important de notre coopération. Et Engie a plusieurs projets d'électricité produits à partir de la géothermie qui ont commencé à être mis en œuvre. On a d'autres projets qui avancent. On a cette possibilité de livraison d'avions de transport A400 par Airbus pour faciliter la connectivité avec la Papouasie. Cet accord et ce contrat est tout près d'être signé. Il ne l'est pas encore, mais j'espère qu'il le sera bientôt. Et voilà. Et donc, on pourrait citer bien d'autres investissements, ceux de Michelin, ceux de Decathlon, le succès de Colas Rail sur le tramway, le LRT Jabodetabek à Jakarta. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup reste à faire, bien sûr, hein, pour mettre en œuvre tout ce que nous avions envisagé lors de la visite du président Hollande. Mais les choses avancent et nous, à l'ambassade, nous faisons tout pour qu'elles avancent encore plus vite.
Est-ce que la coopération militaire, si je ne me trompe pas, c'est le PINDAT, c'est avec le Renault, n'est-ce pas, et pour organiser le Panzer ici. Ça démarre sur le
même. Il y a beaucoup de coopération dans le domaine militaire, c'est vrai. Vous avez cité cette coopération dans le domaine des véhicules de transport, blindés. On a aussi l'entreprise Nexter qui livre des canons qui sont très appréciés, je crois, par l'armée indonésienne. Voilà, on a beaucoup de projets dans ce domaine. On a le projet des avions de combat à Rafale. On propose aussi aux partenaires indonésiens des sous-marins. Voilà, on a beaucoup des radars aussi, des radars de protection aérienne. Voilà, donc on a beaucoup de projets, et ce que je voudrais dire, c'est que ces projets incorporent beaucoup de... Enfin, les entreprises françaises sont très conscientes de l'importance du transfert de technologie, de la formation du personnel, du contenu local, de l'assemblage local. Et donc la plupart de ces offres comportent une offre dans ces trois directions.
Bon. Ça, c'est le gouvernement de François Hollande. Est-ce que c'est après le nouveau président de Emmanuel Macron? Est-ce que c'est la politique a changé? Ou surtout pour l'Indonésie?
Certainement pas. Enfin, si l'élection d'Emmanuel Macron a apporté un certain nombre d'impulsions au plan intérieur, au plan extérieur, en ce qui concerne l'Indonésie, c'est évident que que le président a l'intention de continuer le partenariat stratégique avec l'Indonésie. Le président Macron a rencontré brièvement le président Jokowi l'année dernière à Hambourg, en marge du sommet du G20. Nous espérons organiser dans un sens ou dans l'autre une visite au plus haut niveau pour qu'il se parle plus longuement et qu'il discute de tous ses projets. Donc soyez sûr que le président Macron a bien conscience de l'importance de l'Asie du Sud-Est et de l'Indonésie, qui représente près de 40% du PIB de l'ASEAN, et de son importance en tant que membre du G20, que membre du Conseil de sécurité, puisque vous avez été élu en juin membre non permanent du Conseil de sécurité. À partir de l'année prochaine, pendant 2 ans, vous serez membre du Conseil de sécurité. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Et donc, nous allons travailler étroitement pour régler un certain nombre, en tout cas essayer d'avancer sur les grandes crises régionales qui vous préoccupent, qui nous préoccupent, comme le Moyen-Orient, les Rohingyas. Voilà. Donc, le président Macron est bien conscient de l'importance de l'Indonésie et j'espère qu'il pourra se rendre cette année ou plus tard l'année prochaine à Jakarta.
Ok. Maintenant, peut-être c'est la dernière. Les questions de Palmi Aluil, c'est un peu c'est très très sérieux en ici, parce que l'Union européenne est un peu, c'est pour le produit de l'Indonésie, c'est un peu... stoppé ou discriminé. Comment d'après-vous, monsieur?
Alors justement, vous avez prononcé le mot de discrimination. Nous sommes contre la discrimination de l'huile de palme. Il y a eu tout un débat sur à l'occasion de l'adoption d'une directive de l'Union européenne sur les énergies renouvelables. Et dans ce débat, la France, pas toute seule d'ailleurs, a pris position pour un traitement non discriminatoire de l'huile de palme par rapport aux autres huiles végétales, de sorte qu'on puisse continuer à importer de l'huile de palme, y compris en France, à la condition néanmoins que nous ayons des garanties sur le fait que cette huile de palme soit effectivement durable ou sustainable, comme on dit en anglais, qu'elle soit certifiée, et il y a un certain nombre de certifications qui existent, qui pourraient sans doute être améliorées. Mais nous avons confiance et nous savons que les autorités indonésiennes travaillent activement sur l'amélioration de ces certifications. Et donc si on obtient ces garanties de soutenabilité, de durabilité de l'huile de palme, nous continuerons à en importer, y compris dans la filière des biocarburants, puisque comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le groupe Total est en train de va lancer prochainement une nouvelle raffinerie, enfin une ancienne raffinerie pour carburants fossiles convertis au biocarburant. Et cette raffinerie convertie au biocarburant utilisera la moitié des matières premières dont elle a besoin. Ce sera de l'huile de palme qui viendra en particulier d'Indonésie. Et ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, la France va importer 300 000 tonnes, ce qui est énorme, hein, 300 000 tonnes d'huile de palme, pas que d'Indonésie, puisque la Malaisie est aussi un gros producteur, mais sans doute à peu près la moitié d'Indonésie. Et donc on va, c'est un signe que nous sommes pour cette approche non discriminatoire pour continuer d'importer de l'huile de palme durable, notamment d'Indonésie.
Ok, merci monsieur. C'est un petit interview à propos de 14 juillet. Bon, merci beaucoup.
Merci à vous.
C'était l'interview de la Voix de l'Indonésie avec monsieur Jean-Charles Barton, qui est fait par le reporter de la Voix de l'Indonésie, M. Suhartono.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie, un programme qui vous présente des diverses infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Bogor, Java de l'Ouest. Le gouvernement de la ville Bogor a reçu un prix national de la marque de services de coopératives et de petites et moyennes entreprises en 2018 du ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises. Le directeur du bureau des coopératives et des petites et moyennes entreprises de Bogor, Anas Rasmana, à Bogor, jeudi, a déclaré que le prix a été reçu par le maire de Bogor, Bima Arya Sugiarto, qui a remis par le ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, mercredi à Tangerang. Selon Anas, le prix ne peut pas être séparé d'un certain nombre de politiques émises par la maire Bima Arya qui ont l'impact direct sur le climat économique, en particulier dans le secteur des coopératives et des petites et moyennes entreprises. La politique étant bougée pour la coopérative et le secteur de petites moyennes entreprises d'un montant de 94,96 milliards rupiah. Cette politique permet non seulement à la coopérative et aux petites moyennes entreprises de survivre, mais aussi d'être gagnantes en pleine crise économique mondiale. Une autre politique de Bima est la formation d'organisations officielles sur les coopératives et les petites moyennes entreprises. De plus, Bima a également réussi à convertir 86 unités des institutions de microfinance qui ne sont pas sous licence et incorporées d'être coopératives. Ensuite, l'info de Surabaya, Java de l'Est. Le ministre de la Recherche, Technologie et de l'Enseignement supérieur, Mohamad Nasir, a inauguré l'hôpital vétérinaire de l'éducation de l'Université Airlangga Surabaya, mercredi, qui est le premier hôpital vétérinaire de l'éducation en Indonésie. Après l'inauguration, le ministre Mohamad Nasir a déclaré que l'hôpital devrait fournir aux enseignants et aux étudiants des informations sur l'amélioration des compétences dans le domaine de la santé animale. Il a suggéré que cet hôpital vétérinaire de l'Université Erlangen n'est pas seulement destiné aux animaux domestiques, mais aussi aux animaux comme les poulets, les vaches et les chèvres. L'hôpital vétérinaire de l'Université Erlangen dispose d'installations modernes, entre autres l'unité chirurgicale et radiologique, l'unité d'acupresseur, l'unité des cellules souches, l'unité de conseil en alimentation et en santé, l'unité de laboratoire, l'unité d'hématologie, l'unité de pharmacie clinique, l'unité hospitalière et de santé. De plus, il y a des unités de natation et d'hydrothérapie, l'unité d'appel à domicile et divers défenseurs modernes du diagnostic, comme les ultrasons et les rayons X. La dernière l'info de Lebak, Banten. La communauté badouille à l'intérieur de la régence Lebak, Banten a interdit les produits modernes par opposition aux coutumes locales. L'opération, qui s'est tenue jeudi 12 juillet, implique des douzaines d'indigènes badouilles d'Alam et badouilles Penamping qui ont nommé par les anciens autochtones. La communauté badouille doit respecter les règles coutumières qui interdisent l'utilisation d'équipements modernes, y compris les véhicules à deux roues et à quatre roues. Si dans l'opération, on trouve l'équipement moderne ou les articles ménagers, ils seront détruits. Pendant ce temps, s'ils ont un véhicule, ils se coordonneront avec la police. La police procédera à la saisie de véhicules s'ils appartiennent réellement à des résidents de Badouille. Cependant, s'ils empruntent le véhicule de quelqu'un d'autre, alors il peut être pris par les propriétaires. Une telle opération vise à faire appliquer les règles coutumières qui interdisent les biens modernes. Les résidents de Badouille ne sont pas autorisés à avoir des articles ménagers tels que des verres, des assiettes, des flacons, des théières, des cuillères, des métals, des fourchettes et autres. C'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 14 juillet. Le 14 juillet 1958, le roi Faisal II est mort dans le coup d'État par les nationalistes arabes et Abdul Karim Qasim devenait nouveau dirigeant de l'Irak. Le roi Faisal II était un roi qui a régné en Irak entre 1939 à 1958. Faisal a 3 ans lorsque le 4 avril 1939 a été couronné roi de l'Irak après la mort du père Ghazi dans un accident de voiture. Entre le 4 avril 1939 au 2 mai 1953, son oncle Abdullah devenait tuteur du roi jusqu'à l'âge Faisal est tassé. De la date de mai 1953, Faisal II avait obtenu un contrôle complet. Faisal a fait ses études à Harrow School of Royaume-Uni. En 1958, des émeutes ont éclaté en Irak, qui a éclaté la révolution sous la direction de Abdul Karim Qasim. Le 14 juillet 1959, le roi Faisal est mort dans cette révolution. Faisal II fut le dernier roi d'Irak. Le 14 juillet 1960, le lancement de l'opération des Nations Unies à Congo. Les Nations Unies ont envoyé ses forces militaires au Congo où les tensions augmentaient. Les tensions ont éclaté après que le Congo a obtenu son indépendance du royaume de Belgique. Les tensions sont intensifiées après l'arrivée des troupes belges. Voyant la menace, le premier ministre du Congo, Patrice Lumumba, a demandé l'aide des Nations Unies d'intervenir immédiatement. Puis, l'ONU a effectué des opérations au Congo et a envoyé 20 000 personnels militaires en même temps chargés d'assurer le bon déroulement du retrait des troupes belges. La tension est augmentée lorsque Patrice Lumumba, à son tour, sera capturé et tué. Le 14 juillet 2004, Hugeng Imam Santoso est morte. Hugeng Imam Santoso est l'un des figures de la police indonésienne. Il est mort le 14 juillet 2004 en raison de la maladie. Au cours de l'occupation japonaise, Hugeng n'a jamais suivi une formation militaire nippon en 1942 et Koto Keisatsu Kaikai, 1943. En 1944, Hugeng est nommé chef adjoint de la police section 2 Jomblang Semarang et commandant de la mer de Java Central de la police militaire 1945-1946. Lorsque Hugeng est servi en tant que chef de la police, qui a d'abord effectué et remanié la structure organisationnelle au niveau du siège de la police. En conséquence, la nouvelle structure semble plus dynamique et communicative. En second lieu, il est question d'un changement de nom et le siège de la direction de la police. Sous la direction de Hugeng et la participation de la police d'Indonésie sur la carte de l'Organisation internationale de police, l'Organisation internationale de police criminelle est de plus en plus active. Elle a été marquée par l'ouverture du secrétariat du Bureau central national d'Interpol à Jakarta. C'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Le président Joko Widodo a assisté à la commémoration de la Journée nationale des coopératives. La 71e Journée nationale des coopératives est commémorée le 12 juillet à ASBSD, Tangerang, Banten. Dans la commémoration de cette année, le thème retenu est « Renforcement des coopératives encourage l'économie nationale ». La commémoration a débuté par des remarques du président du Conseil d'administration des coopératives indonésiennes, Nurdin Halid. Dans son discours, Nurdin a expliqué ce qui a été fait en accueillant la Journée nationale des coopératives. Le président Joko Widodo a assisté à la commémoration de la 71e Journée nationale des coopératives. Dans son discours, le président Joko Widodo a exprimé son espoir qu'un jour il y aura des coopératives en Indonésie qui sont capables de grandir et de se développer avec une vitesse d'argent très importante. Selon le président, jusqu'à présent, la majorité des coopératives en Indonésie ne sont en mesure de lever des fonds que pour de faibles montants. En fait, le potentiel des coopératives est très ouvert. Le président a également donné un exemple de la coopérative Fondera en Nouvelle-Zélande. Selon lui, cette coopérative a réussi à montrer son existence dans le domaine de la production laitière et des produits traités laitiers. Le président a également donné un autre exemple de coopérative Ocean Spray aux États-Unis. Cette coopérative a réussi à développer des canneberges en récoltant des fruits allant des jus de fruits, des raisins secs aux fruits secs. Cette coopérative a également réussi à récolter le bénéfice chaque année à des milliards de dollars américains. Le président considère que les coopératives devraient être un lieu d'innovation et le moteur d'innovation. Il a demandé à la coopérative d'utiliser la technologie numérique pour développer ses activités. De cette façon, les coopératives en Indonésie ne sont pas périmées. Le président a également demandé à chaque coopérative de créer des pages sur les médias sociaux tels que Twitter, Facebook et Instagram. Il a également demandé à la coopérative d'apprendre comment créer un contenu intéressant dans les médias sociaux. Le président croit, en utilisant la technologie numérique, alors les coopératives continueront de croître rapidement. Par conséquent, la coopérative peut atteindre toute la communauté sans être gênée par les limitations de distance. Dans son discours, le président Joko Widodo a également procédé à la socialisation de l'impôt sur le revenu final de micro-entreprises, petites et moyennes entreprises, 0,5%. Dans cet événement, le président était accompagné du ministre coordinateur de l'économie, Darmin Nasution, et du ministre des coopératives et des petites et moyennes entreprises, Puspa Yoga. En marge de la commémoration, le ministre des coopératives et des petites moyennes entreprises, Puspa Yoga, a déclaré son bureau mène une réforme totale de la coopérative à travers trois étapes stratégiques pour renforcer le rôle des coopératives dans la croissance économique conformément à la direction du président Joko Widodo. Les trois étapes stratégiques sont la réorientation, la réhabilitation et le développement. Puspa Yoga a ajouté au cours des 4 années de la réforme totale de la coopérative, de nombreux accords de coopératives ont été mis en œuvre avec succès tant auprès de mobilisateurs des coopératives, des communautés et des institutions coopératives. Les indicateurs de croissance coopérative montrent une augmentation. Sur la base des données traitées par le ministère des coopératives et des petites moyennes entreprises et le Bureau central des statistiques, la contribution du produit intérieur brut des coopératives au produit intérieur brut national continue d'augmenter. En 2014, le produit intérieur brut de la coopérative est seulement de 1,71%, puis il passe à 3,99% en 2016 et 4,48% en 2018. C'était mon Indonésie.
Kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu, tegaklah.
berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema, maknai kekalahan sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're as bright as the sun. We deserve to be the one, and fight your fears, come on, don't waste your time. Raise the energy, you'll shine.
Quiz international de la voix de l'Indonésie 2018. Vous rêvez de visiter ce beau pays? Réalisez votre rêve en participant au quiz international de la voix de l'Indonésie de l'année 2018. Si vous avez de la chance, la Voix de l'Indonésie vous invite de passer des vacances et profiter de la beauté de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez les bâtiments historiques de Bandung que vous connaissez. 2. Par quels moyens écoutez-vous La Voix de l'Indonésie? En streaming ou en ondes courtes? Pourquoi? 3. Quel est votre programme préféré de VOI? Envoyez vos réponses avec des données personnelles, votre numéro et la date d'expiration de votre passeport à notre email voiquiz2018@voinews.id. Je répète, voiquiz2018@voinews.id. Avant le 31 juillet 2018, de 24 heures temps universel.
Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel en produisant Geplak, la nourriture typique de Bantul, Yogyakarta. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix de l'Indonésie. Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonésie. Certains disent que Jogja est une ville amicale et douce, aussi douce que Geplak. Geplak est l'un des aliments traditionnels de Bantul, Yogyakarta. Dans les temps anciens, Geplak était fabriqué à partir de la jeune viande de noix de coco, le sucre de coco, les feuilles de pandan, la vanille, la farine de riz, le riz gluant, le sucre et l'eau. Geplak a un goût sucré qui vient de la douceur de la noix de coco et du sucre Java. Geplak sans l'Antiquité était l'aliment de base du riz de substitution au moment du citoyen connaissant la saison de la famine. Geplak est aussi une preuve que la langue de Jogja aime la douceur. Actuellement, Geplak est une marque de commerce pour la région Bantul. C'est ce qui fait Bantul recevoir le surnom la ville Geplak. En plus d'être connue comme ville Geplak, Bantul depuis l'ère hollandaise est également célèbre comme une zone de production de noix de coco et de canne à sucre. Parce que Bantul est riche en noix de coco, les prix de la noix de coco sont bon marché. Par conséquent, pour faire de la noix de coco à une valeur ajoutée, on fait la nourriture Geplak. Et il s'avère que grâce à Geplak, la valeur de la noix de coco et du sucre a la valeur ajoutée et surtout, les gens ont de nouveaux moyens de subsistance qui peuvent augmenter leurs revenus. Au début, Geplak a seulement deux couleurs, à savoir blanc et brun. Mais à ce moment, Geplak est fait coloré. Il y a jaune, rose et vert. Cependant, les matières premières pour la fabrication de Geplak utilisent encore des ingrédients naturels sans conservateur artificiel. En plus des couleurs colorées, la saveur de Geplak est maintenant plus diversifiée. Il y a le saveur de gingembre, des haricots, du durian, des fraises, des oranges et d'autres. Les nutriments contenus dans Geplak sont également élevés.
Le processus de fabrication de geplak est simple. Après la noix de coco est prise la viande, puis trempée dans l'eau de noix de coco jusqu'à ce que l'huile a disparu. Puis lavée à fond et déchiquetée. Ensuite, mettez dans une casserole qui contient du sucre pendant la cuisson. Puis, donnez le goût en accord avec les souhaits. De plus, cette pâte est formée en boulettes et rôties. On doit le cuire correctement pour que le plat puisse durer longtemps. Bien que sans conservateur ait fait de noix de coco, le plat est durable, ce qui le rend approprié pour les souvenirs. Geplak est vendu 20 000 rupiah par kilo. Après avoir pesé, geplak est mis dans une besek ou une boîte faite de bambou tissé. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur. L'Indonésie est l'un des pays qui ont la richesse de la faune abondante. Mais malheureusement, la faune endémique de l'Indonésie est maintenant très petite. Même une partie de la faune existante a disparu. En outre, de nombreux enfants indonésiens ne connaissent pas la faune originelle et endémique de l'Indonésie. Sur cette base, 5 étudiantes de l'Université agricole de Bogor, IPB, innovent pour créer un jeu inspiré de jeux Jumanji, appelé Yokawan. Yokawan est un média de jeu qui contient une variété de la faune endémique de l'Indonésie. Avec la méthode de jouer tout en apprenant, Yokawan essaie d'introduire la faune endémique de l'Indonésie allant des noms locaux, habitat d'origine et la distribution en Indonésie. Les 5 étudiants sont Hilma Rosmi Nazia, Huki Arvi Luwani, Fanisha Febrianti Hernada, Sukma Devi Heidi Santoso et Srivulan. Elles proviennent de 2 disciplines différentes, soit la science de la communication du développement de la communauté et la science familiale. Grâce au jeu Yokawan, ces 5 étudiants de l'IPB ont réussi à créer une nouvelle nuance pour apprendre sur la faune endémique de l'Indonésie en complétant la mission dans le jeu. La mission est d'atteindre le milieu de Yokawan simultanément. 4 joueurs doivent travailler ensemble et s'entraider pour résoudre les défis présentés au tableau. Si le joueur ne peut pas résoudre le défi, il recevra des sanctions sous forme de vie réduite et sera sauté une fois le tour suivant. Comment jouer Yokawan? C'est comme jouer le jeu de Monopoly. Les joueurs utilisent un personnage de zoologiste. Chaque joueur a 4 cartes de connaissances. Ensuite, le joueur lance les dés. Le nombre des dés indique le nombre de pas qu'ils doivent prendre. Chaque arrêt ramasse une carte contenant le défi. Si vous ne pouvez pas le résoudre, le joueur peut être aidé par d'autres joueurs avec la conséquence d'avoir à donner 1 des 3 chances qu'il a. Les défis et les questions sont inclus dans le composant de jeu sous la forme de cartes. Le défi de Yokawan, par exemple, est de faire un poème sur Aigle Java. L'un des créateurs de Yokawan, Huki Arviloani, explique que ce jeu est appliqué à plusieurs endroits, parmi lesquels des enfants autour des maisons de 5 étudiantes et à l'école élémentaire Chihidun Hilir 4 au village Cibanteng, Bogor. La socialisation de Yokawan à l'école se fait en plusieurs étapes. La première étape est Aloha, venez voir les animaux. Aloha est fait en regardant ensemble des vidéos d'animaux afin que le schéma de pensée des enfants se concentre sur les animaux. La deuxième étape, Charita, soit découvrir, parle des animaux endémiques en Indonésie avec des choses intéressantes provenant d'animaux endémiques. Par exemple, la différence entre le rhino de Sumatra et celui de Java. La troisième étape est Kawan, soit j'aime l'animal. Cette étape est faite en jouant au jeu de plateau Yokawan. La quatrième étape est Everlasting, étant l'évaluation du jeu. Selon Huki, jusqu'à ce jour, elles ont produit 7 jeux Yokawan et ne sont pas vendues. Pour sa distribution, elles encore explorent un certain nombre de parties, parmi eux le ministère de l'Environnement, car il y a un plan pour mettre Yokawan dans le parc national. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur. Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Salut tout le monde! Voici le magazine musical de RRI du Service mondial de la voix de l'Indonésie. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les chansons de Once Mekal. Et pour commencer l'édition d'aujourd'hui, je vous présente la chanson de Once Mekal featuring Shakira Jasmine dont le titre est Menaklukkan Dunia. Bonne écoute!
Dalamnya lautan akan kuarungi, gunung yang menjulang pastikan ku daki.
Rintangan yang datang takkan menghalangi segala niat yang telah kita yakini.
Kadang aku harus menyatu dan juga saling melengkapi untuk menggapai semua.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram
voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.